Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
De toute façon, toutes ces mesures, il aurait fallu les faire dès qu'on était déconfiné. Hein. C'est un peu tard, hein. Puis ça change toutes les semaines.
Déboussolés, les Niçois, après l'annonce des nouvelles mesures, rassemblement de plus de 10 personnes interdits, bar fermé à minuit et demi, la fête est finie. Feu vert pour les tests salivaires, mais attention, ce ne sera pas pour tout le monde. Plus de 13 000 cas supplémentaires et de plus en plus de clusters dans les EHPAD, 6 résidents morts dans la Loire. Témoignage d'un héros méconnu au procès des attentats de janvier 2015, un agent d'entretien qui a tenu tête à Hamedi Coulibaly. Une grande voix s'est tue, celle d'Astérix entre autres. Roger Carrel est mort à l'âge de 93 ans. Le Tour de France, victoire aujourd'hui du Danois Søren Krag Andersen. Primoz Roglic, toujours maillot jaune, à deux jours des Champs-Élysées. Et puis le foot, quatrième journée de la Ligue 1. L'Olympique Lyonnais affronte en ce moment Nîmes, Maxime Choche.
Et oui, bonsoir. Le match va reprendre là. Il y a Memphis Depay et Moussa Dembélé dans le rond central. 0-0 après la première mi-temps entre Lyon et Nîmes.
Merci Maxime, vous intervenez au moindre but. Le temps de demain, instable, nuageux et orageux sur le sud-ouest, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris termine en net recul, moins 1,2% à 4 978 points. Les détails à venir avec Claire Lemaître de boursier.com. L'interview écho, 22h20, un fleuriste sur 7 n'a pas rouvert depuis le confinement. Emmanuel Duteil reçoit ce soir Florent Moreau, président de la Fédération des artisans fleuristes. Et puis, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après Marseille et Bordeaux, Nice, à son tour, serre la vis. Fini les apéros sur la plage après 20h, les anniversaires entre amis au parc, les rassemblements de plus de 10 personnes sont désormais interdits. Bars, cafés et restaurants devront fermer à minuit et demi. Pas de vente d'alcool à emporter après 20h. Bref, à Nice, la fête est finie, Frédéric Michel.
Oui, et sur la grande plage de Galée, en contrebas de la promenade des Anglais, un peu de personnes portent le masque, mais la distanciation sociale semble respectée. J'ai vu aucun groupe de plus de 10 personnes. Ces étudiants sont venus profiter du soleil et de la mer. Et ils l'avouent, ils ont bien du mal à s'y retrouver avec toutes ces annonces.
Le 10, c'est quand même assez restreint, mais je pense que tout le monde ne va pas respecter. Ça va être dur de contrôler tous les groupes. Mais bon, après, ils les feront ailleurs, quoi. Si les plages sont interdites, ils trouveront un endroit ailleurs où le faire.
Des rassemblements de plus de 10 personnes interdits, des débits de boissons fermés après minuit 30 et la musique interdite. Stéphane ne comprend pas.
De toute façon, toutes ces mesures, il aurait fallu les faire dès qu'on était déconfiné. Hein. C'est un peu tard, hein. Puis ça change toutes les semaines.
Ce patron d'une salle de billard à Nice est lui résigné.
Nous, on a 20% du chiffre d'affaires qui part sur cette mesure. Mais bon, c'est pareil pour tout le monde, on fait avec.
Et il va falloir faire avec pendant longtemps. C'est ce que craignent de nombreux professionnels, mais aussi particuliers. Ce soir, par exemple, la fête des voisins à Nice a été annulée.
Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 à Nice. J'ajoute que la jauge pour les grands événements est abaissée à 1000 personnes, organisation comprise. Voilà pourquoi le match de foot Nice-PSG dimanche se jouera à huis clos sans supporters. Dans le Rhône, cette fois, les nouvelles mesures restrictives devraient être annoncées lundi. Le port du masque obligatoire jusqu'ici à Lyon et Villeurbanne pourrait être étendu à 9 autres communes. Nous aurons bien des tests salivaires. La Haute Autorité de Santé a donné ce soir son feu vert pour leur utilisation, mais pas pour tout le monde, Anne Le Gall.
Voilà, c'est un feu vert seulement pour les personnes qui présentent des symptômes et qui supportent mal l'écouvillon dans le nez. Ces personnes, ce sont notamment les personnes très âgées, celles qui sont atteintes de troubles psychiques ou les enfants. Ces restrictions s'expliquent par une moins bonne fiabilité du test salivaire par rapport au test PCR de référence, explique le professeur Dominique Le Guludec. Elle préside le collège de la Haute Autorité de Santé et c'est aussi pour cela que ces tests ne sont pas validés pour les personnes asymptomatiques.
Les performances de ces tests ne sont pas suffisantes pour les utiliser en dépistage chez les personnes qui ne présentent pas de symptômes. Parce que chez ces personnes, nous raterions 3 malades sur 4. Le taux d'erreur serait de plus de 75%.
Voilà, en revanche, pour les enfants ayant le nez qui coule ou les personnes âgées présentant des symptômes, le geste sera plus simple désormais. Il suffira de cracher dans un tube lors d'une visite chez le médecin ou chez soi, puis de déposer ce test en laboratoire. En cas de résultat positif, le patient devrait être averti en 24 heures. La HAS a aussi donné son feu vert pour le remboursement de ces tests. L'assurance maladie va trancher dans les jours qui viennent.
Précision signée Anne Le Gall. La hausse est spectaculaire, pour ne pas dire effrayante. 123 décès supplémentaires supplémentaires et 13 215 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. C'est 2600 de plus qu'hier, nouveau record. Et parmi ces nouvelles contaminations figure Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, vient d'annoncer avoir été testé positif au Covid-19. Je me suis immédiatement mis à l'isolement. Je ne présente aucun symptôme et vais donc continuer à exercer mes fonctions. C'est ce que fait savoir Bruno Le Maire ce soir via son compte Twitter. Hausse du nombre de cas, hausse également du nombre de foyers de contamination, particulièrement dans les EHPAD. On en compte 68 ce soir, dans l'un d'entre eux, à Roanne, dans la Loire. On a appris aujourd'hui que 6 résidents sont décédés du Covid ces derniers jours. 48 autres sont contaminés. Et tout est allé très vite, Johanna Chabas.
Oui, c'est une contamination extrêmement rapide et massive. Un premier résident est testé positif en début de semaine dernière. Un dépistage généralisé est donc enclenché. Les résultats des tests tombent hier. 40 résidents et 8 membres du personnel sont positifs dans un établissement de seulement 65 lits. Et entre-temps, vous le disiez, 6 personnes sont mortes. Une salariée que j'ai contactée avoue que sur place, c'est très difficile pour toute l'équipe. Ils ne savent pas comment cette explosion de cas a démarré. Une de ces hypothèses, le coronavirus aurait pu entrer dans l'EHPAD lors des rencontres avec des familles, mais elle n'en a aucune certitude. Des mesures ont maintenant été mises en place pour éviter de futures contaminations. Les visites sont interdites. Chaque résident reste dans sa chambre. Les membres du personnel malades sont, eux, confinés chez eux. Des médecins et infirmiers de l'hôpital de Roanne viennent aussi apporter leur aide. D'autres prélèvements ont été réalisés hier, donc de nouveaux cas pourraient être découverts bientôt. Pour l'instant, la direction de la résidence du Clermont refuse de s'exprimer.
Johanna Chabas, crise sanitaire mais aussi économique et sociale, les plans de sauvegarde de l'emploi se multiplient. Près de 400 ont été déposés depuis mars. Avec pour certains cette suspicion, le Covid ne serait-il pas un prétexte facile pour licencier? En déplacement aujourd'hui dans le Gers, Emmanuel Macron a assuré d'un ton combatif que le gouvernement sera intraitable.
Partout où nous pouvons nous battre, nous nous battons. Et le gouvernement, aux côtés des élus locaux, des salariés, se bat pour qu'il n'y ait aucun abus, aucune fatalité, aucune entreprise ou investisseur qui n'utilise le contexte pour essayer de mettre la clé sous la porte. La difficulté est là, nous le savons. Et il ne s'agit ni d'être catastrophiste, ni d'être angélique, mais de se battre. Nous battre. Nous battre. Nous battre. Pour tous nos concitoyens qui sont aujourd'hui dans l'angoisse de perdre leur travail ou parfois dans le désarroi quand ils l'ont perdu, pour leurs familles, pour leurs enfants, nous battre pour eux et avec eux.
Le chef de l'État au micro européen d'Adrien Beck.
Europe Soir, le 22-22-30.
Émotion et stupéfaction aujourd'hui au procès des attentats de janvier 2015. Émotion après le témoignage de la mère de Clarissa Jean-Philippe, la policière abattue à Montrouge par Hamedi Coulibaly. Ma fille, elle voulait vivre. Stupéfaction à l'écoute de cet employé municipal qui, juste après les coups de feu, s'est battu avec le tueur. Son récit, Justin Morin, a permis d'en savoir beaucoup plus sur les intentions, les objectifs réels du terroriste.
Oui, grâce à une simple incompréhension. On ne peut pas croire, a répété l'agent d'entretien devant la cour, qu'un homme surarmé, équipé d'un gilet pare-balles, traîne comme ça, à Montrouge, à 8h du matin, sans avoir une cible. Et la seule cible dans le quartier, c'est l'école juive. Ce témoin a encore la mémoire fraîche sur ce qu'il s'est passé. Ce jour-là, Hamedi Coulibaly tire sur la policière Clarissa Jean-Philippe, mais aussi sur son collègue touché à la mâchoire. Ensuite, quand le terroriste pointe son arme dans sa direction, l'agent d'entretien lui saute dessus et agrippe le canon de la mitraillette. Dans sa tête, une phrase tourne en boucle. « Si tu lâches, t'es mort ». À voix haute, Coulibaly répond à ses pensées. « Tu veux jouer, tu vas crever ». Le terroriste finit pourtant par s'enfuir en courant sans sa moto. L'agent d'entretien constate alors la policière municipale à terre et son collègue défiguré, sans pouvoir s'empêcher de penser que le terroriste avait un autre plan en tête. À quelques centaines de mètres de là, les enfants de l'école juive Yagel Yaakov sont enfermés à l'intérieur du bâtiment. Le lendemain, Hamedi Coulibaly attaque l'hypercacher et tue 4 personnes parce qu'ils sont juifs. Une preuve de plus pour l'agent d'entretien. Je ne suis pas devin, conclut-il. Mais ce jour-là, ce qu'il s'est passé avec Clarissa Jean-Philippe a certainement permis d'éviter un autre carnage.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. Le parquet de Versailles annonce ce soir l'ouverture d'une information judiciaire après la noyade dans la Seine d'un proche d'Adama Traoré. L'homme avait été surpris en train de charger une moto dans un fourgon avant de prendre la fuite à la vue de la police. Sa famille réclame que la lumière soit faite sur les circonstances du drame et dénonce de possibles violences policières. Un nouveau cadavre de cheval découvert à Luneau dans l'Allier. L'animal avait un œil et une oreille arrachés, a indiqué le procureur de la République. Plus de 150 enquêtes ont été ouvertes en France à la suite de ces mutilations d'équidés parfois mortelles. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le climat. La France a dû rallumer ses centrales à charbon pour faire face à ses besoins en électricité. Pour quelle raison, Clément Le Saffre ?
Eh bien, c'est un concours de circonstances très rare. Cette semaine, les températures sont brusquement remontées en France jusqu'à 35, voire 38 degrés. Et les Français ont ressorti les climatiseurs du placard. Résultat, un pic de consommation d'électricité a été observé ces derniers jours. Normalement, les centrales nucléaires auraient dû absorber facilement cette légère surconsommation. Sauf que, là aussi, c'est exceptionnel. 24 de nos 56 réacteurs nucléaires sont à l'arrêt en ce moment. La faute au Covid qui a retardé et allongé des opérations de maintenance prévues de longue date. RTE a donc dû aller chercher de l'électricité ailleurs. D'ordinaire, ce sont les énergies renouvelables moins chères qui viennent compenser dans ce genre de situation, notamment l'éolien. Mais là encore, pas de chance, un anticyclone traînait sur le nord de l'Europe. Forcément, les éoliennes tournaient moins vite et ne produisaient pas assez d'électricité. Nous n'avons donc pas eu d'autre choix que de rallumer nos quatre centrales à charbon. C'est uniquement de l'appoint, elles ont fourni 2% de l'électricité consommée ces derniers jours. Un événement exceptionnel donc et temporaire, même si, avec la crise sanitaire qui s'inscrit dans le temps, il y a de fortes chances pour que les centrales à charbon soient de nouveau mobilisées cet hiver.
Clément Le Saffre. Christiane Lambert, élue à la tête de la COPA, le principal syndicat agricole européen. La présidente de la FNSEA est la première femme à diriger cette organisation clé dans les négociations de la PAC, la politique agricole commune. À l'étranger, Donald Trump promet à l'instant un vaccin pour tous les Américains d'ici avril. 100 millions de doses seront même fabriquées avant la fin de l'année, assure le président américain.
Europe 1. Le 22-22-30.
C'est un homme qui nous a donné beaucoup de joie, dont la voix a bercé nos enfances. Roger Carrel s'est éteint à l'âge de 93 ans après des milliers de doublages pour le cinéma et les dessins animés. Mathieu Charrier.
Roger Carrel était surnommé l'homme aux mille voix. Il faut dire que c'est lui qui a notamment doublé pendant 47 ans Astérix, le petit Gaulois.
Nous avons couru, nous avons lancé le javelot, nous nous sommes battus, nous avons affronté les prêtresses.
Et ce dessin animé, on lui doit aussi les voix de Mickey et Winnie l'ourson, Jolly Jumper, Milou, Idéfix ou le serpent K.A. dans le livre de la jungle. Roger Carrel qui était aussi la voix française de quantité de comédiens, Peter Sellers, Jack Lemmon, Jerry Lewis, et puis Kermit la Grenouille dans le Muppet Show, sans oublier le droïde bavard dans Star Wars, c'est 3PO.
Lando Calrissian et ce pauvre Chewbacca ne sont jamais revenus de cet horrible endroit.
Pourtant, Roger Carrel aurait dû devenir prêtre. D'abord envoyé en pension dans un collège très dur d'ici les Moulineaux, où il imitait ses professeurs pour faire rire ses camarades. Il intégrera ensuite le petit séminaire avec déjà cette voix qui n'a jamais vieilli. Il le racontait à Michel Drucker sur Europe 1.
Cette voix a tenu, je n'ai pas eu de problème. J'ai eu certainement des phoniatres qui m'ont demandé un jour de venir dans leurs émissions. Comme ça, ils m'ont dit, parce que c'est assez curieux, que la voix n'ait pas du tout subi de tremblement.
Votre première vocation, c'était la prêtrise.
Oui, on peut se tromper. Hein. Vous savez, Sacha Guitry a dit, le théâtre est né de l'Église, elle ne lui pardonnera jamais. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, l'Église, ça devient un spectacle.
Il faut dire que Roger Carrel était aussi un grand comédien devant la caméra. Il refusa deux fois d'entrer à la Comédie Française, joua à la télévision dans les Arsène Lupin ou différents films de Pierre Charles. Le titre de son autobiographie résume toute sa vie. J'avoue, j'ai bien ri.
Mathieu Charrier, l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées se rapproche à grands coups de pédale. Ce sera dimanche. Aujourd'hui, la 19e étape entre Bourg-en-Bresse et Champagnole dans le Jura a été remportée en solitaire par un Danois qui s'était déjà imposé à Lyon, Axel May.
Oui, Søren Krag Andersen a franchi la ligne d'arrivée ici à Champagnole en montrant deux doigts de la main gauche comme le nombre de ses victoires sur ce Tour de France. Après avoir faussé compagnie au groupe de tête à 3 km de l'arrivée à Lyon samedi dernier, cette fois c'est à 15 km de l'arrivée que le coureur danois a accéléré. Il se trouvait alors dans un groupe d'échappés comptant des sprinteurs et il savait qu'il serait moins fort en cas d'arrivée groupée. Bref, nouvelle victoire de Søren Krag Andersen. Sa formation allemande Sunweb a aussi gagné avec l'impressionnant Suisse Mark Hirsch sur ce tour, ce qui lui fait 3 succès d'étape à égalité avec la formation néerlandaise Jumbo-Visma du maillot jaune Primoz Roglic. Dans la course au maillot vert, Peter Sagan a dit adieu à ses rêves de 8e trophée de meilleur sprinter à moins d'un improbable retournement de situation. C'est l'Irlandais Sam Bennett qui va ramener ce maillot vert à Paris. A noter qu'aujourd'hui, Rémi Cavagna, auteur d'une longue échappée, a été récompensé du prix de la combativité. Demain, chrono en montagne à la planche des Belles-Filles avec pourquoi pas une victoire de Roglic.
Merci Axel May qui nous fait vivre ce Tour de France tous les jours sur Europe 1 aux côtés de Marguerite Lefebvre. Il y a également du foot ce soir, 4e journée de Ligue 1, direction Lyon où l'OL pour l'instant est tenu en échec face à Nîmes. Maxime Choche.
Exactement, 58e minute de jeu, 0-0 entre Lyon et Nîmes, un match où les occasions sont nombreuses. Pourtant, des deux côtés, il y aurait même pu avoir 2 buts partout après 15 minutes de jeu avec un peu plus de réalisme de Maxwell Cornet et Moussa Dembélé pour les Lyonnais. Il a fallu un grand Anthony Lopez dans les buts lyonnais face aux Nîmois Lamine Fomba, Zindine Ferrat et Renaud Ripard qui lui a frappé la barre transversale du but lyonnais en première mi-temps. Et dès l'entame de deuxième mi-temps, Moussa Dembélé pensait avoir ouvert le score d'une matière sur un centre centre de Maxence Cacré, la frappe de l'arrière du pied de l'attaquant lyonnais avait fini au fond des filets ni moi, mais le ballon était sorti en dehors des limites des terrains et le but a été logiquement refusé. Nouvelle occasion lyonnaise il y a de ça une minute par l'attaquant néerlandais Memphis Depay, dont la frappe contrée est sortie en corner des Lyonnais. Plus séduisant offensivement avec cette formation en 4-4-2 innovée par Rudy Garcia ce soir, alors que du côté des Nîmois on procède en contre après 59 minutes de jeu. Il y a donc 0-0 toujours entre les deux équipes.
Merci Maxime Choche en direct du Groupama Stadium à Lyon pour Europe 1. On vous retrouvera d'ici un petit quart d'heure. On passe à la météo. Anissa Dadi, vigilance orange pour orage demain dans l'Hérault et sur les Cévennes en particulier. Le temps, Anissa, sera donc instable.
Et même un temps agité, hein, Julien, demain, avec dès le début de journée des averses sur le quart sud-est. Le soleil fera quelques apparitions entre deux averses, il ne disparaît pas complètement demain. Et puis dans l'après-midi, c'est sur la Bretagne, la Normandie, l'Auvergne et le Languedoc que ces orages arrivent. Au nord de la Seine, demain, en Normandie, région parisienne, sur le Grand Est et en région lyonnaise, vous allez commencer votre journée avec quelques gouttes. Au nord de la Seine, le soleil reste résistant, il fera beau demain et sur la région lyonnaise, là vraiment les orages arrivent dans l'après-midi tout comme sur les Alpes. Les températures, elles sont stationnaires demain matin avec 10 à 21 degrés du nord au sud et puis dans l'après-midi ça baisse mais ça reste encore bien chaud pour la saison avec 20 à 24 degrés sur le nord-ouest et 24 à 28 degrés sur le reste du pays. Il fera 28 degrés à Paris.
Merci Anissa Dadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com, suivi de l'interview Echo. Un fleuriste sur 7 n'a pas rouvert depuis le confinement, statistique effrayante. Emmanuel Dutheil reçoit ce soir Florent Moreau, président de la Fédération française des artisans fleuristes. A tout de suite sur Europe.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Wall Street a clôturé ce soir sous pression avec le retour des craintes liées à la crise sanitaire.
Oui, nouveau repli pour les indices. Le Dow Jones perd 0,88%, 27 657 points, moins 1,07% pour le Nasdaq à 10 793 points. La crise sanitaire inquiète les investisseurs et puis c'est une journée un peu spéciale aujourd'hui en bourse. L'arrivée à échéance simultanée de plusieurs types de produits dérivés, ça s'appelle la journée des quatre sorcières et ça provoque beaucoup de volatilité, de nervosité à Wall Street.
La journée des quatre sorcières.
Ça fait peur, ça ne s'arrange pas du tout pour les grandes technos qui plombent encore les marchés. Apple perd encore 3%, Alphabet moins 2,4%, Facebook moins 0,8%, Amazon moins 1,7%, Tesla résiste mieux en hausse de 4,3%. Le fabricant de voitures électriques profite de deux notes d'analystes qui pensent que le cours de l'action va monter. Et puis le pétrole est stable à 41 dollars le baril, mais il a regagné près de 10% depuis le début de la semaine.
La semaine justement se termine en baisse pour le CAC 40, plombé par la reprise de la pandémie du coronavirus.
Oui, c'est une baisse de 1,22% pour le CAC 40 qui termine la semaine à 4 978 points. Tendance plombée par le coronavirus et la multiplication des cas de contamination en Europe. Les menaces de nouvelles restrictions pèsent sur le tourisme. Air France KLM perd 2%, moins 2,8% pour le groupe hôtelier Accor. Et puis les affaires ne s'arrangent pas pour Unibail Rodamco Westfield. Le titre abandonne encore près de 11% après avoir décroché déjà de 10% hier. La foncière spécialisée dans l'immobilier commercial est très impactée elle aussi par cette crise. Elle a annoncé hier une augmentation de capital.
Et le retour du télétravail, j'imagine, n'arrange pas Unibail Rodamco Westfield. Fnac Darty enchaîne une quatrième séance en hausse.
Oui, les deux enseignes, Fnac et Darty, ont connu une forte accélération de la croissance de leur trafic sur Internet. Elles ressortent comme les deux marques les plus recherchées au deuxième trimestre, selon une publication de la FEVAD, la Fédération du e-commerce. Le titre Fnac Darty a bondi de 13% sur les cinq dernières séances. La semaine se termine en baisse en Europe. Londres perd 0,5%, Francfort moins 0,7%, moins 1% pour Milan, moins 2% pour Madrid, moins 0,4% pour Bruxelles. Et le CAC 40 perd 1,2% à 4 978 points.
Merci Claire Lemaître de Boursier.com et à lundi. 22h20 et 48 secondes très précisément sur Europe 1. On passe à l'interview Echo. Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir Florent Moreau.
Bonsoir Florent Moreau. Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de la Fédération française des artisans fleuristes. Si on a eu envie d'être en ligne avec vous ce soir, c'est que ce matin, sur Europe 1, Olivier Samin révélait que 2000 fleuristes ne vont pas rouvrir ou vont mettre là, dans les semaines à venir, la clé sous la porte à cause du Covid. Il faut déjà avoir une idée en tête, hein. Il n'y a que 14 000 fleuristes en France. Donc, on peut dire qu'un fleuriste sur 7 n'a pas survécu au Covid ?
C'est ça. Aujourd'hui, les premiers chiffres qui sont publiés apparaissent qu'un fleuriste sur 7, effectivement, est aujourd'hui contraint à la fermeture ou va être contraint à la fermeture très rapidement suite à la crise du coronavirus. Ouais.
Comment ça s'explique ? Quelles sont les raisons ?
Structurellement, en fait, c'est une profession, c'est les entreprises en fait, qui ont toujours des fonds propres extrêmement limités, un niveau de trésorerie toujours assez faible, donc avec une capacité à absorber les chocs comme celui qu'on vient de vivre est forcément très limitée. Et donc, inévitablement, les entreprises les plus fragiles d'entre elles ne peuvent pas supporter cette crise-là, ont des gros problèmes de trésorerie et sont donc contraintes à la fermeture.
Oui, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est le fait de ne pas avoir travaillé pendant plusieurs mois et d'avoir dû jeter toute la production qui avait été achetée quelques jours avant l'annonce de la fermeture de tous les magasins. C'est une des raisons qui a mis la trésorerie de ces entreprises sous tension.
Voilà, plusieurs raisons, effectivement, comme vous le soulignez. Donc, une fermeture précipitée au 15 mars pour lesquelles les fleuristes ont jeté dans l'ensemble, donc pour les 14 000 fleuristes de France, à peu près 40 millions d'euros de marchandises, ce qui est quand même considérable, une marchandise qui n'a pas été prise en charge par l'État ou par les fonds d'assurance. Ensuite, donc, une fermeture obligatoire, tout du moins pour ceux qui n'exécutaient pas de livraison ou de drive, une fermeture obligatoire pendant 2 mois. Et après, encore aujourd'hui, donc, tout l'événementiel, donc le mariage, les événements professionnels, les salons, le fleurissement d'hôtels, toute cette activité-là qui est à l'arrêt quasi complet.
On aurait pu aussi citer les enterrements, puisque là, pendant le Covid, les enterrements se passaient sans fleurs, sans rien, puisqu'on n'avait quasiment pas le droit de fleurir, on ne pouvait pas fleurir les tombes de nos défunts.
C'est ça, donc effectivement, voilà, une activité, en fait, tout un pan de l'activité qui a quasi disparu pendant le confinement, pour revenir de façon dégradée ensuite.
2000 sur 14 000, c'est énorme, hein, je le disais, c'est 1 sur 7. Malgré tout, on peut dire, mais c'est que ça devait déjà très mal aller avant pour être si fragile. Comment on explique que cette profession des fleuristes soit si fragile ?
Effectivement, un niveau de trésorerie assez bas, un niveau de marge également toujours assez faible. Alors, le fleuriste, en fait, c'est d'abord un métier passion, quelqu'un qui exerce sa profession parce qu'il a un message à transmettre avec le végétal qu'il travaille, avec son savoir-faire, et effectivement un métier voilà, qui va dégager peu de marge, relativement peu de marge, donc ça laisse une possibilité de réaction qui reste assez, somme toute assez limitée.
Là, on est quand même sur un choc extraordinaire pour une profession comme la vôtre. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française des artisans fleuristes. On ne vous a pas beaucoup entendu jusque-là. Vous demandez quoi ? Un plan d'aide spécifique aux fleuristes ?
Alors, c'est vrai que les fleuristes, en fait, ont été assez présents pendant la période du confinement, au tout début du confinement. Après, c'est vrai qu'on a pour habitude d'avoir une profession qui ne fait pas beaucoup de bruit. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les fleuristes ont besoin d'être accompagnés par les pouvoirs publics. L'ensemble des entreprises de l'événementiel ont déjà été accompagnées, ou en tout cas, il y a des aides qui ont été mises en place. Les fleuristes devraient pouvoir intégrer, en fait, ces dispositifs-là, notamment pour ceux qui
sont... Mais là, j'ai l'impression que vous avez besoin de quelque chose de spécifique pour vous, parce que on est dans un drame social pour... Alors, pardonnez-moi, peut-être que je durcis encore un peu plus le trait, mais on est dans un drame social pour votre profession.
Voilà, parce que ça aurait des incidences, en effet, sur le chef d'entreprise, en effet, sur les salariés ou sur les apprentis de ces entreprises-là. 15%, 2000 entreprises, c'est considérable en France, en sachant qu'il y a un petit peu moins de 2 salariés par entreprise en France, en moyenne. Donc, je vous laisse faire le calcul du nombre potentiel d'emplois perdus.
Mais là, vous avez une réponse de la part des pouvoirs publics. Votre secrétaire d'État, c'est Alain Griset, hein, qui est en charge des PME, du commerce. Est-ce qu'il y a une attention particulière qui est portée en ce moment au secteur des fleuristes ?
Oui, Alain Griset, en fait, est très sensible à la cause des fleuristes. C'est quelqu'un avec qui on est en relation assez régulièrement. Il y a des solutions qui seront peut-être amenées à être trouvées dans l'immédiat, pas encore, parce qu'effectivement, ces chiffres n'avaient pas encore été publiés. On avait une vue pas forcément très précise encore de la situation. Forcément que ce chiffre-là va amener à modifier un petit peu la prise de décision.
Et est-ce que ce chiffre pourrait encore augmenter ? Parce que là, voilà, c'est 2000 qui ont fermé, c'est 2000 qui vont fermer, qui ne vont pas se redresser du Covid. Mais comme vous le dites, si les mariages ne reprennent pas, et ça va être compliqué dans les mois à venir. Si l'événementiel ne reprend pas, et là aussi ça va être très compliqué dans les mois à venir, comment vous faites pour faire face ? On peut s'imaginer que la vague va être pire que celle-ci encore.
Alors, j'ai bon espoir malgré tout que cette vague, en fait, cette vague catastrophique n'évolue pas ou pas de façon aussi significative. Je l'espère, en tout cas, on va tout faire pour. Il faut savoir que le chiffre de 15%, en fait, on l'avait déjà avancé, nous, en tant que fédération, dans la presse au tout début du confinement, parce que ces 15%, en fait, c'était exactement, en fait, le nombre d'entreprises lors de différentes enquêtes qui ressortaient extrêmement fragilisées. Donc, naturellement, on avait déjà pu l'avancer. J'espère qu'on va se tenir entre, voilà, 15-17%, pas beaucoup plus. Parce qu'après, il y a aussi le solde des entreprises qui se créent chaque année. Il y en aura moins cette année que d'ordinaire. Mais il y a toujours, heureusement, quelques professionnels, quelques artisans passionnés qui ouvrent des boutiques de fleurs.
Mais là, j'imagine que quand on entend ça et qu'on est artisan fleuriste en ce moment, qu'on est apprenti tenté par le métier, ça fait peur et c'est pas très attractif pour le moment.
Ça fait peur, ça peut ne pas être très, très attractif. Et pour autant, il faut continuer à former des jeunes, il faut continuer à rentrer dans cette très belle profession parce qu'elle apporte beaucoup de choses. Je pense qu'on connaîtra des jours meilleurs, j'en suis persuadé. Surtout qu'à côté de ça, il y a quand même des fleuristes, bon nombre de fleuristes au-delà de ce chiffre effarant. Ce qui est tout en paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup de fleuristes en France, notamment sur toutes les zones de villégiature ou principalement en province, qui travaillent, eux, très bien.
Eh bien, on va souhaiter que tout le monde réussisse à très bien travailler. Un grand merci, Florent Moreau, le président de la Fédération française des artisans fleuristes, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve 22h20 sur Europe 1 lundi.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. À lundi, interview à retrouver sur notre site europe1.fr. Restez avec nous dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain et faire un dernier crochet à Lyon où, pour l'heure, à la 70e minute de jeu, l'OL est toujours tenu en échec face à Nîmes. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. On commence avec Libération dont la une pose une question. Vous êtes là ? Là, écrit L.A.S. Angoissé par l'épidémie, tiraillé entre injonctions sanitaires et impératifs économiques, les Français ont attaqué septembre avec un sentiment de fatigue quasi généralisé, écrit Libé. Dépistage, le nouvel échec de la stratégie anti-Covid, titre pour sa part Le Figaro. Alors que les files d'attente s'allongent devant les laboratoires, l'exécutif tente de fluidifier l'accès aux tests en autorisant les prélèvements salivaires, on vous en parlait dans le journal. Coupable d'inertie, c'est le titre de l'édito du Figaro signé Cyril Van Lerberg. Après les masques qui n'arrivaient pas, voici donc les tests qui ne suffisent pas. Faute de n'avoir pas organisé le plus tôt possible le dépistage massif de la population, comme l'avait fait l'Allemagne dès le mois de février, la France peine encore aujourd'hui sur ce front pourtant critique. Exemple le plus frappant, selon l'éditorialiste, ces fameux tests salivaires. Ils ont été autorisés aux États-Unis dès le mois de mai. Nous, il aura fallu attendre le 18 septembre. Allez, comme promis, on termine avec le foot, quatrième journée de Ligue 1, direction Lyon, où l'OL, Maxime Schoch, est toujours tenu en échec face à Nîmes.
Exactement, encore un gros quart d'heure de jeu à disputer ici au Parc OL et toujours 0-0 entre les deux équipes. Les Lyonnais qui dominent clairement les débats avec près de 70% de possession, des situations dangereuses depuis le début de la rencontre. Mais la défense nîmoise tient bon pour le moment. Des Nîmois qui se sont procurés aussi des occasions en première mi-temps mais qui sont vraiment repliés la plupart du temps dans leur camp depuis le début de ce deuxième acte. Moussa Dembélé pensait avoir ouvert le score à la 49e minute mais son but a été refusé car le ballon était sorti juste avant en 6 mètres. Et puis à la 66e minute, une tête du défenseur Diomandé pour Lyon sur la main de Renaud Ripard, l'attaquant nîmois revenu en défense, eh bien, on demandait un pénalty côté lyonnais, mais finalement, Monsieur Delerue n'a pas validé ce pénalty. Il y a donc toujours 0-0 entre les deux équipes après 75 minutes de jeu précisément.
Merci beaucoup Maxime Schoch en direct du Groupama Stadium pour Europe 1. Bonsoir Sabine Marin.
Bonsoir à vous Julien.
Vous allez bien ?
Ça va, merci.
Bon, et bien 39-21 pour vous appeler et ouvrir votre libre antenne.
C'est tout à fait ça. Rendez-vous avec vous à 23h pour les prochaines infos.
À tout à l'heure.